Donc oui, on est ravis, le muséum, de vous accueillir aujourd'hui. Nous présentons Tout contre la Terre, un projet de création et de réflexion autour de la place, j'ai envie de dire la responsabilité des humains vis-à-vis de la nature.
Quelles émotions éprouvons-nous face au changement climatique? Et pourquoi n'agissons-nous pas malgré l'évidence de la menace? Ces questions sont celles que pose l'exposition « Tout contre la Terre » présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Son ambition, inviter le public à faire l'expérience de ses émotions face à la crise climatique. De cette exposition est née cette série podcast. Des chercheurs et des chercheuses du CISA, le Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève, nous y éclairent sur le rôle que jouent nos émotions dans nos décisions face à l'environnement.
Pourquoi le réchauffement climatique est une notion si difficile à comprendre pour nos cerveaux? Quelles stratégies émotionnelles pourraient être mises en place pour mobiliser largement en faveur du climat et du vivant? De cela, on parle en tête-à-tête dans cet épisode avec le professeur Tobias Broch. Il est responsable de la chaire de psychologie du développement durable de l'Université de Genève et parmi les contributeurs scientifiques de l'exposition Tout contre la Terre. Tout contre la Terre, le podcast, épisode 2. À toutes et à tous, bienvenue.
Oh, un kiwi! Moi, j'aime bien. Oh, regardez! Je prends.
Tobias Broch, pourquoi un professeur en psychologie et chercheur se retrouve un jour à participer à l'élaboration d'une exposition comme celle présentée au muséum Tout contre la Terre?
Pour moi, c'est une opportunité unique de transmettre les réflexions théoriques qu'on se fait à l'université dans le monde réel. Parce qu'on peut toucher beaucoup plus de personnes en participant à une telle exposition. C'était pour moi une opportunité de tester cette idée de enrichir une problématique avec des expériences personnelles, de voir si ça pousse les gens plus à l'action. Parce que comme le changement climatique, la perte de biodiversité, c'est aussi un problème qui semble un peu distant. On se dit, bon, est-ce que c'est vraiment un problème s'il y a une espèce d'araignée sur une île très loin, n'est plus là, comment ça me touche? Donc c'est d'une manière aussi abstraite, aussi théorique que l'information qu'une température pourrait augmenter de 2 degrés. C'est difficile de voir pourquoi ça me concerne en tant qu'individu. Et quand le musée a proposé de créer quelque chose qui met les émotions en lien avec la perte de la biodiversité, c'était super intéressant pour moi aussi au niveau intellectuel, de voir est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça va motiver les gens si on arrive à pas seulement déclencher des émotions, mais aussi les faire réfléchir, les faire penser un peu aux expériences qui ont été faites dans cette exposition.
C'est comme avant, on avait l'impression qu'ils pouvaient voler là.
Mm-hmm. Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, mercredi 9 mars 2022.
C'est quoi? C'est comme si c'est des papillons. C'est des papillons cassés. Des papillons cassés.
Tobias, peut-on rapidement rappeler ce qu'est une émotion et aussi quelles sont les émotions fondamentales?
Le grand secret dans la psychologie des émotions, c'est que personne ne sait vraiment ce que c'est une émotion. Et il y a autant de théories et de systèmes des émotions qu'il y a des chercheurs. Donc il y a les théories des émotions de base qui disent, bon, il y en a 5 ou 6 ou 7 émotions de base. C'est peur, colère, dégoût, tristesse, joie et mépris. Il y a des autres qui disent, bon, il y a autant d'émotions qu'il y a des mots pour les émotions. Il y a des théories qui disent, il y a encore plus. Il y a même plein d'émotions différentes qui sont décrites par le même mot parce que on simplifie son vécu intérieur. Qu'une émotion, c'est une réaction de notre organisme face à une situation qu'on évalue comme étant pertinent. pour nous. C'est un flou dans le cerveau qui va très vite, qui nous dit « alors ça, c'est pertinent pour moi parce que ça peut me menacer ou ça peut être utile ». Et cela déclenche une réaction émotionnelle qui vient avec des changements physiologiques, avec des changements de notre expression, avec le sentiment de ressentir une émotion et ses tendances à l'action. Donc ça, c'est la composante motivationnelle d'une émotion. Les émotions sont en fait assez distribuées dans le cerveau. C'est en fait les premières études en neurosciences de l'émotion, elles ont toujours essayé de trouver la région des émotions. On a dit c'est l'amygdale ou après c'est le cortex orbitofrontal. Mais là maintenant, on voit que c'est vraiment c'est un grand réseau, qu'il y a que chaque émotion implique l'activation d'un réseau assez distribué, y compris des régions qu'on pourrait appeler cognitives. Et ça, en fait, ça va encore un peu plus avec cette idée qu'il n'y a pas les émotions et la rationalité, mais que tout est mélangé et tout travaille ensemble pour analyser la situation, pour nous aider à comprendre l'environnement.
Est-ce qu'une émotion a toujours un effet sur la cognition?
Une émotion a souvent, mais pas toujours, un effet sur la cognition. Et cet effet est souvent, mais pas toujours positif. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, les émotions, oui, ça peut nous aider à apprendre quelque chose. Parce qu'on sait qu'on se rappelle mieux des situations qui sont émotionnellement chargées. En même temps, on sait qu'on a tendance à se focaliser sur les aspects centrales de cette scène et de moins bien se souvenir des choses qui sont un peu autour, à la périphérie.
Le réchauffement climatique et un nouveau rapport alarmant du GIEC. Publié aujourd'hui, il recense les impacts déjà observables du changement climatique mondial. Inondations, sécheresses, maladies, migrations, pénuries alimentaires, risques de conflits. La menace est réelle et croissante.
Tobias Broch, selon vous, pourquoi nous n'agissons pas collectivement et massivement pour freiner les effets du changement climatique?
Je dirais la question là. Plus intéressante pour commencer, c'est de dire quelles sont les barrières, pourquoi on n'agit pas, parce que c'est assez évident que la situation devient de plus en plus problématique, qu'on aurait besoin d'un changement de comportement fondamental. Parce que maintenant, les sciences du climat, c'est réglé, si on veut. On est à 100% sûr que le changement climatique existe, que c'est lié à l'activité de l'humain et qu'on aurait besoin d'un grand changement de comportement à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Mais c'est pas ce qu'on voit. Et donc, la première question que nous, on se pose en tant que psychologue de l'environnement, c'est comment ça se fait que, même si on demande aux gens, est-ce que vous croyez que le changement climatique existe? Ils vont dire oui. Est-ce que vous pensez que c'est grave? Ben, est-ce que vous êtes prête à changer votre mode de vie? Ah, non, plutôt pas. Et là, ce qu'on voit, ce qu'on a trouvé, c'est que le changement climatique, c'est très difficile à comprendre pour notre cerveau, pour la manière que notre cerveau fonctionne. Parce que le changement climatique, donc c'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut écouter, qu'on peut toucher, mais c'est plutôt quelque chose qui se passe au niveau statistique, abstrait, distant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, une augmentation des jours très chauds, très froids. Et quand on regarde la manière que c'est communiqué, c'est souvent aussi ces graphes avec des projections que peut-être dans 50 ans, il y aura une augmentation de la température de 2 ou 3 degrés. C'est difficile à capturer, à comprendre pourquoi c'est vraiment pertinent pour l'individu, pour la personne. Et ça, c'est à cause de la manière que notre cerveau fonctionne. On a deux modes de fonctionnement. Une qui est basée sur nos expériences, sur ce qu'on a vécu. C'est bien enrichi avec de l'affect, avec des émotions. C'est un traitement souvent très rapide, très automatique. Et un autre mode de fonctionnement qui est long, qui a besoin d'efforts pour le faire. Et c'est ce mode qui nous permet de traiter des statistiques, des informations sur le changement climatique, mais on a besoin de faire un effort pour le comprendre. C'est pas basé sur nos expériences, et c'est pas très enrichi avec l'affect, avec l'émotion. Et ça, c'est très problématique parce qu'on sait maintenant que c'est les émotions qui nous montrent que quelque chose est pertinent pour nous-mêmes et qui nous donne cette énergie pour agir. Et donc, si on n'arrive pas à communiquer le changement climatique en faisant appel aux émotions, on aura la peine à créer de l'action.
Moi, quand on parle du réchauffement climatique, je suis triste et puis j'ai aussi un fond de colère qui vient.
Moi, c'est plutôt un sentiment de peur et puis un peu de colère aussi, un fond de colère aussi. Parce que pareil, on se sent un peu impuissant et puis quand on fait les choses à notre échelle, on se dit que ça peut fonctionner, mais quand on voit que tout le monde ne suit pas forcément, ça met un peu en colère et puis moi, ça me fait un peu peur aussi pour... la descendance, c'est ce qu'on va laisser pour les enfants.
Je trouve ça juste dommage que ce soit pas juste un ressenti général, en fait. Que ce soit vraiment genre quelque chose qui est présent chez seulement certaines personnes et qu'il y en a certaines, on a vraiment l'impression que ça repasse pas du tout à travers la tête, en fait. Que c'est pas du tout un problème qui les concerne. Je trouve ça juste dommage que ce soit pas juste un ressenti, en fait, en général chez tout le monde, en fait, de vouloir faire quelque chose, même si c'est le minimum, quoi.
C'était le résultat d'une étude en neuroimagerie que j'avais menée quelques années avant, où on a montré aux gens les conséquences du changement climatique, donc des petites phrases qui décrivent plusieurs conséquences, et on a juste demandé à quel point ça les préoccupe, à quel point ça fait peur. Et on a trouvé une région dans le cerveau qui nous a permis de distinguer, en fait, entre les personnes qui sont très préoccupées par ce qui se passe dans un monde très loin, dans l'avenir, et des gens qui étaient un peu plus ciblés sur eux-mêmes, qui ont dit « ouais, c'est pas si grave que ça ». Et cette région est liée à la simulation mentale, la région qu'on utilise pour imaginer des scénarios qu'on n'a pas vécu, mais qu'on construit sur la base de ces expériences passées. Et donc, ce que nous, on a tiré de ça, c'était l'hypothèse que les gens qui arrivent mieux à visualiser ces conséquences se sont plus concernés par ces conséquences.
Tobias, pour mobiliser largement les citoyens et les citoyennes autour du changement climatique, il faudrait s'appuyer sur quelle émotion ?
Je pense là, il faut plutôt regarder quels sont les ingrédients des émotions qu'il nous faut. De peut-être même pas cibler une émotion comme... On va pas dire quoi, il faut induire la peur, ou il faut induire l'espoir ou la fierté, parce qu'il y a toujours plusieurs types des émotions avec des conséquences différentes. Et la peur, ça peut être utile si avant... On n'a pas vu à quel point c'est problématique et cette émotion nous permet de dire « Ah, voilà, c'est grave et c'est aussi important pour moi parce que ça menace mon mode de vie, ça menace mes valeurs, donc je dois agir. » Donc la peur, ça peut motiver. Mais la peur, si c'est trop exagéré, ça peut aussi nous immobiliser. La même chose pour l'espoir. Il y a en fait même des études qui montrent qu'on peut induire des formes d'espoir qui nous poussent à agir et des formes d'espoir qui induisent un type de complaisance. On dit « bon, alors, si tout va bien, si l'humanité bouge, c'est très bien, comme ça, moi, j'ai pas besoin de faire quelque chose parce que ça va déjà dans la bonne direction ». Donc, il n'y aura pas une réponse qu'il faut induire cette émotion. Une autre. Il faut toujours bien contextualiser quelles sont les barrières en ce moment et comment les émotions peuvent nous aider avec ces barrières.
Regarde, maman, on voit les fesses du girafe. Moi, j'ai pris les fesses du mandrille. Voilà. Il a pris les fesses du mandrille.
Tobias Broche, le warm glow, c'est quoi ?
Le warm glow, ça fait référence à l'affect positif qu'on ressent quand on fait quelque chose moralement bien. Et ça sort de toute une théorie qui vient des économistes, en fait, qui se disent que le comportement altruiste peut être expliqué aussi pour une personne qui est un peu égoïste, si on assume que à travers mon comportement altruiste, je produis ma propre récompense. Donc, je fais quelque chose de positif parce que je sais qu'après, je vais me sentir bien. Et c'est ça qui est capturé dans cette idée de warm glow. C'est intéressant parce que très souvent, les comportements durables qu'on souhaite de motiver sont pas très agréables. Donc, le comportement, c'est souvent lié à une perte de confort, à une perte des opportunités. Mais si on peut rajouter cette couche de se produire un warm glow, parce que c'est une action qui est en lien avec mes valeurs, et donc je me sens bien, ça peut être un levier, un mécanisme très important qui peut créer un comportement durable en long terme, sans qu'on ait besoin des motivations externes, parce qu'on produit sa propre récompense. Le warm glow, selon définition, c'est juste un affect positif, mais si on veut mettre une étiquette d'une émotion de base, ça serait la fierté. Et si ça se combine avec l'espoir, bah oui, je pense, notamment dans ce contexte, ça va bien ensemble, parce que l'espoir... Dans ce contexte, ça veut dire on peut faire quelque chose, on peut travailler vers une résolution de la problématique du changement climatique. Et la fierté, ça indique, oui, moi, je suis en train de le faire. Donc je crois là, on a même besoin des deux, parce qu'on peut pas être fier si on pense pas qu'il y a une solution. Et on va même pas agir si on pense pas qu'il y a une solution. On a besoin d'espoir et fierté, les deux. L'espoir pour dire « ok, on peut le faire », la fierté pour dire « je suis en train de le faire et je veux continuer ». Aujourd'hui, je dirais que ça, c'est le levier affectif le plus prometteur. Donc la question, ce serait comment est-ce que je peux déclencher ce que j'appelle le cercle vertueux du warm glow. Parce que on sait des études que les personnes qui pensent qu'ils vont ressentir un warm glow après agir d'une manière durable vont le faire plus souvent. On sait aussi que les gens qui montrent ce comportement durable après vont ressentir un warm glow. Donc vous voyez que le warm glow, ça peut donc être l'antécédent et la conséquence d'un comportement durable. Je le fais parce que je veux me sentir mieux. Je le fais, je me sens mieux. J'apprends pour la prochaine fois, ah oui, je me sens bien si je le fais. Et donc en termes psychologiques, ça c'est un mécanisme de renforcement. Donc c'est ce qu'on peut faire pour augmenter la fréquence d'un comportement. Donc pour moi, maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut lancer ce cercle du warm glow au niveau d'une grande population.
Vous venez d'écouter Tout contre la Terre, une série podcast produite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève en partenariat avec le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari pour Chai Media. Enregistrement additionnel par Selim Clair et la musique est signée de Nick von Frankenberg. Merci infiniment au professeur Tobias Broch d'avoir accepté de participer à cet épisode.
Nos remerciements vont également à Arnaud Méder, direction du Muséum d'Histoire Naturelle, Hervé Groscarré, responsable public et exposition du Muséum, ainsi qu'à David Sander, directeur du CISA, et Carole Varonne, responsable de la communication du CISA. Vous trouverez d'autres épisodes du podcast Tout contre la Terre sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, sur celui de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de podcast. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.